Trop bien. Alors bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Et puis je vous propose du coup ce matin une petite méditation sur un extrait de l'évangile de Luc. Et donc ça s'ancre à la fois dans notre étude suivie sur Luc. Ça illustre aussi des thèmes qui sont encore à venir. Par exemple, Luc, l'évangile où le Seigneur est souvent à table. Ou bien Luc, l'évangile des femmes. C'est deux choses qu'on va retrouver dans l'extrait ce matin. Mais en fait, cet extrait, je l'inscris dans une toute autre série que j'appellerai les larmes dans les évangiles. Pourquoi? Eh bien, dans les évangiles, j'ai remarqué qu'il y avait sept personnes qui, à un moment, pleurent ou versent des larmes. Et en les lisant tous ces passages un peu à la suite, eh ben, j'y ai vu comme une illustration de différentes étapes, circonstances que peut traverser le croyant. Et j'ai trouvé ça très encourageant. Et voilà, j'aimerais vous proposer un extrait. Alors, qui sont ces sept personnes? Vous avez peut-être des noms qui vous viennent en tête. Si je les cite une fois, on a cette femme pécheresse qui pleure donc en versant son parfum aux pieds de Jésus. Ça, c'est l'extrait qu'on va étudier là ce matin ensemble. Et puis dans le même chapitre, dans Luc 7, on a la veuve de Naïm dont Armand nous avait parlé, qui pleure la mort de son fils. On a également un père qui pleure dans les évangiles. C'est le père de l'enfant qui avait cet esprit sourd et muet et qui pleure en demandant de l'aide à Jésus. Et puis, à la mort de Lazare, on a Marie qui pleure et Jésus qui pleure. Jésus, il pleure aussi à d'autres moments, il pleure sur Jérusalem. Et puis, il y a aussi la scène dans le jardin avec les grumeaux de sang qui peuvent aussi peut-être nous parler de larmes. Et ensuite, il y a Pierre qui pleure après le reniement. Et à la toute fin, Marie-Madeleine qui pleure dans le jardin de la résurrection, quand elle cherche le corps de Jésus qui a disparu. Et elle pleure dans le jardin. Donc c'est sept personnes qui pleurent. C'est sept passages émouvants. Et voilà, je vous invite peut-être à les relire avec ce fil rouge de en quoi c'est peut nous parler de différentes circonstances qu'on peut traverser en tant que croyant et puis quel encouragement est-ce qu'on y trouve. Et ce matin, donc l'extrait de la femme pécheresse. Alors pourquoi celui-là? Eh bien parce que dans cette série sur les larmes, ce serait un peu le premier extrait. Pour moi, ce sont les larmes du pécheur qui se convertit et c'est là que commence la vie du croyant. Alors, je vous propose de lire dans Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Luc 7, verset 36. Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici une femme dans la ville qui était une pécheresse et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière à ses pieds et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes. Et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête et couvrait ses pieds de baisers et les oignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, si celui-ci était prophète, il saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Et Jésus répondant lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, Maître, dis-le. Un créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Dis donc, lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon répondant dit, J'estime que c'est celui à qui il a été quitté davantage. Et il lui dit, Tu as jugé justement. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné aime peu. Et il dit à la femme, Tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Alors j'aimerais étudier ce passage en trois parties qui suivent l'ordre du texte. Donc d'abord un peu le contexte avec ce dîner qui est interrompu, puis les interactions entre Jésus et Simon, et ensuite entre Jésus et la femme. Et peut-être une manière simple de nommer ces parties. La première partie, c'est le pharisien et la pécheresse. Et puis la deuxième partie, les pensées et la parabole. Et en troisième partie, le pardon et la paix. Donc trois parties, le pharisien et la pécheresse, les pensées et la parabole, le pardon et la paix. Et j'aimerais à la fin de chaque partie vous proposer une ou deux applications personnelles, aussi pour nous aujourd'hui, comment on peut s'appliquer ce texte. Alors en première partie, le pharisien et la pécheresse, et puis ça commence avec l'invitation au dîner, au verset 36. Un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et donc on peut penser, on espère, que cette invitation elle était honnête, c'est-à-dire que voilà, ce pharisien, Simon, il a invité Jésus pas pour essayer de le coincer comme d'autres l'ont fait, mais que c'est une invitation honnête. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, on ne sait pas encore qu'il s'appelle Simon, c'est simplement un des pharisiens. Il y a donc un groupe de pharisiens, Simon en fait partie, et on peut penser que ce groupe de pharisiens, c'est celui dont Jésus parle déjà un petit peu plus haut dans le chapitre. Donc si on remonte de quelques versets, on a Jésus qui s'adresse aux foules, et puis au verset 30, il mentionne les pharisiens et les docteurs de la loi qui rejettent contre eux-mêmes le conseil de Dieu et n'ont pas été baptisés par Jean. Donc Jésus s'adresse aux foules, il parle de pharisiens, et on peut penser qu'il y a des pharisiens là autour qui l'entendent. Et en particulier, Jésus pointe du doigt un petit peu cette hypocrisie où quand Jean était venu, Jean il est venu de manière assez aride puisqu'il vivait dans le désert, sans manger, sans boire, et les pharisiens ont dit « Oula, celui-là il a un démon ». Et puis vient Jésus, à l'inverse, qui lui prend du temps avec les gens à table, et les pharisiens disent « Olé, voyez-moi ça, c'est un ami des pécheurs ». Et donc Jésus pointe du doigt cette hypocrisie, et je pense qu'il y a un groupe de pharisiens qui est là autour, Simon en fait sûrement partie, et donc il a entendu ses enseignements, et je pense que c'est important pour la suite du récit. Alors l'un des pharisiens l'invite, le dîner commence, et voilà que ce dîner est interrompu par l'entrée de cette femme. Et la première chose qu'on peut admirer chez cette femme, c'est son courage. Son courage d'être entrée dans cette maison. Quand on lit au verset 37, « Voici une femme dans la ville qui était une pécheresse et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien. » Déjà, ce verset, ça montre une tension entre son désir de rencontrer Jésus, et elle sait qu'il est là, et le fait qu'il est dans une maison de pharisien. Or, elle, c'est une pécheresse. Et elle sait donc très bien qu'elle ne sera pas bien accueillie dans cette maison. Et vraiment, le contraste dans cette première partie que j'ai appelée le pharisien et la pécheresse, c'est le fait qu'en fait, les deux personnages sont anonymes. Au début, on ne sait pas qu'ils s'appellent Simon, simplement un pharisien, c'est une pécheresse. Et du coup, ça renforce encore ce contraste. Eh bien, c'est une pécheresse, c'est un pharisien, et c'est évident que la pécheresse n'est pas la bienvenue chez ce pharisien. Et ça montre son courage, le courage d'être rentré dans cette maison, d'autant plus qu'elle s'y est préparée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée par hasard en passant devant la maison. Non, à la suite du verset 37, on voit qu'elle apporte un vase d'albâtre plein de parfums. Donc elle avait préparé son vase d'albâtre, et donc elle avait eu tout le temps pour méditer, pour réaliser que l'accueil chez ce pharisien ne serait pas le meilleur, puisqu'elle était une pécheresse. Et donc ça montre son courage immense d'avoir fait ce pas, d'être rentrée dans cette maison. Et après son courage, eh bien, on peut admirer son adoration. Que fait cette femme ? Au verset 38, donc elle se tenant derrière à ses pieds. Donc elle commence par se tenir à ses pieds, c'est une position très humble d'être là au pied de Jésus. Et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes. Et, en fait, elle est submergée par cette émotion, elle fond en larmes au pied de Jésus. Ensuite, elle les essuyait avec les cheveux de sa tête. Donc, elle s'est baissée pour essuyer ses larmes avec ses cheveux. De nouveau, une position très humble, une position de service, d'être là au pied de Jésus et essuyer ses larmes avec ses cheveux. Et puis, elle couvrait ses pieds de baisers et les oignait avec le parfum. Et donc, au pied de Jésus, elle verse son parfum. Finalement, comme on on offrirait une libation, voilà, une offrande liquide, on verse son parfum aux pieds de Jésus. Et en fait, ce tableau final avec le Seigneur Jésus allongé, cette femme à ses pieds qui lui verse son parfum, c'est vraiment l'image d'une scène d'adoration. Et si je me permets de tourner cette scène de 90 degrés, eh bien, on a Jésus debout et puis cette femme qui est à genoux, à ses pieds et qui offre son parfum. Et c'est vraiment l'image, eh bien, du pécheur qui est au pied du Seigneur Jésus. C'est en quelque sorte l'image du pécheur au pied de la croix et cela commence la vie du croyant. Alors voilà, c'est cette première scène, cette première mention de l'art dans les évangiles, ou en tout cas, je la mets en premier dans cette série. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont les larmes de la conversion, les larmes d'une pécheresse là qui vient au pied du Seigneur Jésus, qui va recevoir le pardon des péchés. Et bien sûr que voilà, il n'y a pas besoin de larmes pour se convertir, et loin s'en faut. Mais on l'a refait ce matin, et bien quand on repense à cette œuvre, à l'immensité de ce sacrifice, à ce que ça a signifié pour le Seigneur Jésus, et puis ce que ça signifie pour nous qui étions indignes, eh bien il y a vraiment de quoi être ému. Et voilà, peut-être même comme cette femme d'aussi verser des larmes. Et alors, à la fin de cette première partie, eh bien, deux applications pour nous. D'abord, pour quelqu'un qui n'aurait peut-être pas encore fait ce pas de venir au pied du Seigneur Jésus, ce pas de la conversion. Eh bien, comme pour cette femme, ça demande du courage. Ça demande du courage de venir vers Dieu avec cette humilité. De venir vers Dieu en reconnaissant son état de pécheur. De venir vers Dieu en tant que pécheur, ça demande du courage. Mais la différence avec cette femme, c'est que nous n'avons pas besoin d'entrer dans une maison de pharisiens. Et en fait, l'accueil auprès de Dieu, d'un pécheur, c'est un accueil qui est bon. C'est pas un accueil, c'est pas le regard méprisant d'un pharisien, mais c'est un accueil plein d'amour. C'est une étreinte pleine d'amour comme si on pense au père du fils prodigue. Voilà, ce fils prodigue, ben, il lui fallait du courage aussi pour sortir de sa mare au cochon, pour oser retourner vers le père, lui demander pardon. Mais quel est l'accueil ? Eh bien, c'est le père qui l'embrasse, qui le prend dans ses bras. Et nous pouvons être sûrs, assurés que l'accueil auprès de Dieu, eh bien, c'est un accueil qui est plein d'amour. C'est pas un accueil méprisant dans une maison de pharisiens. Et on a, par exemple, Jésus qui nous dit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Voilà, nous avons cette assurance que si nous venons avec cette humilité vers le Seigneur Jésus, eh bien, il nous accueillera bien. Et ensuite, une application pour chacun d'entre nous, voilà, même après la conversion, il me semble que cette femme, elle peut rester un exemple. Et j'aimerais prendre la liberté de relire ce verset 37, vraiment cette fois en nous l'appliquant à nous, en pensant directement à nous. Alors, Luc 7, verset 37. « Voici une femme dans la ville qui était une pécheresse. » Eh bien, finalement, nous aussi, nous sommes des pécheurs et puis nous sommes de cette ville et des alentours. Et qui savait qu'il était à table dans la maison. Eh bien, nous aussi, nous savons que le Seigneur Jésus est à table, en particulier là, dans cette maison, puisque nous sommes venus là ce dimanche matin pour rencontrer le Seigneur Jésus à sa table pour partager le repas du Seigneur. Et donc, comme cette femme, nous savons qu'il est là, dans cette maison, qu'il veut nous y rencontrer, et en particulier ici, autour d'un repas. Alors, que fait cette femme ? Eh bien, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et voilà l'encouragement pour nous. Peut-être que comme cette femme, nous pouvons apporter un vase d'albâtre plein de parfums. Alors, quel parfum ? Eh bien, le parfum de notre adoration, le parfum de notre louange que nous désirons offrir au Seigneur Jésus, que cette femme a préparé peut-être tout au long de sa semaine et qu'ensuite elle vient offrir au pied du Seigneur Jésus. Et donc elle a préparé son parfum, elle entre. Moi je pense que, enfin sûrement son parfum, elle avait prévu de oindre le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que le verser sur sa tête. Mais voilà qu'en entrant, elle est bouleversée par la présence du Seigneur Jésus. Elle fond en larmes et puis finalement elle est à ses pieds et elle verse son parfum sur ses pieds. Eh bien, pour moi, je peux me poser la question, un petit peu comme dans l'introduction, voilà, quand je viens le dimanche matin, est-ce que je suis encore et à nouveau bouleversé par le Seigneur Jésus, par sa présence, par son œuvre ? Et le parfum que j'apporte, la louange que j'ai préparée, la louange que j'ai envie d'offrir, Peut-être que je la réponds déjà, ne serait-ce que sur ses pieds, sans être même capable, voilà, de lui oindre la tête. Voilà, donc j'en viens à la deuxième partie, après cette, voilà, ce dîner qui est interrompu, la partie que j'ai intitulée Les pensées et la parabole. Alors on peut bien comprendre que pour Simon, il a dû être très mal à l'aise. Voilà, cette femme qui entre, Simon donc avait préparé ce dîner avec d'autres invités. Et puis voilà, cette femme qui entre, qui interrompt, ça le rend très mal à l'aise. Et puis tout de suite, il commente en pensée. Et ces pensées, eh bien, elles sont méprisantes. Elles sont méprisantes à la fois envers Jésus, envers la femme, et puis aussi envers son geste. Donc ces pensées, on les lit au verset 39. Le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, celui-ci, s'il était prophète, saurait. Donc voilà, d'abord méprisant envers Jésus dans le sens où il met en doute son identité de prophète. Et puis peut-être que cette remarque d'ailleurs nous révèle en fait pourquoi est-ce que Simon avait invité Jésus. Eh bien peut-être qu'il avait envie d'en apprendre davantage sur ce prophète, puisque dans ce même chapitre, donc on a la résurrection de ce jeune homme, le fils de la veuve de Naïn, et au verset 16 du chapitre, c'est juste après la résurrection. Donc au verset 15, le mort se leva sur son séant, commença à parler, et puis au verset 16, et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a été suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Donc voilà, un grand prophète, et puis cette nouvelle, elle s'est répandue, Simon a dû en entendre parler, ce grand prophète, voilà qu'il l'invite à table, et finalement il se dit, ah, ce n'est pas vraiment un prophète. Sinon, il saurait qui est cette femme, c'est-à-dire qu'il saurait que c'est une pécheresse. Et puis la pensée, c'est que s'il savait qui est cette femme, eh bien il ne laisserait pas simplement lui toucher les pieds comme il le fait là. Donc méprisant envers Jésus. Et puis surtout méprisant envers cette femme. Puisqu'il dit, il saurait qui et quelle est cette femme. Alors, voilà, il semble que cette femme était connue dans la ville. Simon connaissait peut-être son nom. Il sait qui elle est. Et puis là, il dit, qui et quelle est cette femme? Et dans certaines Bibles, c'est traduit, il me semble, de quelle espèce est cette femme? Voilà, c'est très méprisant. Il la classe dans l'espèce des pécheurs. Et lui, bien sûr, il s'inclut pas dans cette espèce-là. C'est un regard de haut, c'est un regard de jugement, de mépris. Voilà, cette femme, c'est une pécheresse. Voilà son espèce. Et puis, bien sûr, ça ne le concerne pas lui. Et ensuite, il me semble que c'est aussi méprisant envers son geste, puisque nous venons de voir dans la première partie un petit peu de contempler ce geste d'adoration, cette femme remplie d'amour, remplie d'émotion. Et puis lui, qu'est-ce qu'il y voit? Il y voit simplement une femme qui le touche. Hein, à la fin du verset 39, qui le touche. Et c'est très pharisien d'être attaché au toucher, d'être attaché à la souillure, d'être attaché au contact. Et en fait, quel dommage de manquer tellement la signification de la scène, d'être tellement à côté de la plaque, d'y voir simplement une femme qui le touche, alors que cette scène est remplie d'émotions, remplie d'amour, remplie d'adoration. Et un peu comme Judas quand Marie verse aussi son parfum pour voilà, oindre le Seigneur Jésus, eh bien Judas, il y voit simplement un parfum qui est versé sur le sol, qui est gâché. Et comme si voilà, on avait gâché un parfum très précieux. Et bien, ce pharisien-là, Simon aussi, il y voit simplement une femme qui le touche et il manque complètement la dimension de cette scène. Mais on peut quand même voilà, remarquer que ce sont que des pensées. Et en fait, Simon se distingue d'autres pharisiens qui n'hésitaient pas du tout à dire leurs pensées tout haut et à faire scandale en public. On peut penser par exemple à. Quand les pharisiens traînent la femme pour la lapider devant Jésus. De nouveau, ils la pointent du doigt, ils parlent tout haut, ils sont prêts à la lapider. Ça va encore beaucoup plus loin que Simon qui commente simplement en pensée. Et donc, je pense, enfin, c'est presque comme si Simon se retenait, enfin, il le fait que en pensée, il ne le dit pas tout haut. Et peut-être justement par rapport aux enseignements qu'il a entendus de Jésus juste avant. Puisque Jésus venait de dire qu'il était un ami des pécheurs, et que les pharisiens avaient tort de le critiquer pour ça. Et donc peut-être que voilà, ces enseignements interpellent Simon. Bon, il ne réagit pas tout haut, mais il réagit quand même en pensée. Alors, Jésus va répondre à ses pensées tout de suite avec cette parabole. Et puis déjà, en répondant aux pensées de Simon, en fait, il établit clairement le fait qu'il est prophète. Hein, puisqu'il faut bien être prophète pour pouvoir répondre aux pensées de son voisin. Donc il est bien prophète, et puis il lui propose cette parabole. Alors la parabole, elle est assez simple et assez claire, Simon la comprend très bien. C'est donc un créancier qui a deux débiteurs. L'un des débiteurs lui doit 500 deniers. Donc un denier, c'est en gros une journée de travail. Donc 500 deniers, c'est un an et demi de salaire. Et puis l'autre, il doit 50 deniers, un mois et demi de salaire. Ok, et puis ce créancier, eh bien, dans sa générosité, décide de quitter la dette à tous les deux, de leur offrir. Ils n'ont plus besoin de la rembourser. Et donc c'est naturel de comprendre, comme le dit Simon, que la personne qui devait un an et demi de salaire, eh bien, va être remplie d'une reconnaissance encore plus grande, d'un amour encore plus grand pour ce créancier, que la personne qui devait un mois et demi de salaire. Et peut-être les deux choses juste à souligner dans cette parabole, c'est vraiment l'ordre. Donc c'est d'abord le créancier qui offre, et puis il offre vraiment de sa générosité. Ça ne dépend pas de ce qu'ont fait les débiteurs. C'est lui qui donne, qui offre le fait que ses dettes sont quittées. Et puis ensuite, l'amour des débiteurs, c'est une conséquence de ce don. Et on a une différence d'amour, effectivement, pour la personne qui se sent encore plus redevable. Elle va être remplie encore plus d'amour et de reconnaissance. Alors voilà la parabole. Et puis Jésus, en fait, ne la commente pas tout de suite. Et il continue à interagir avec Simon avec cette question poignante au verset 44. Il se tourne vers la femme et il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ?» Eh bien, Simon avait tout de suite vu la femme puisqu'il avait tout de suite reconnu qui et quelle elle était. Mais Jésus lui demande, en fait, « La vois-tu vraiment ?»« La vois-tu comme moi je la vois ?» Et Jésus va en quelque sorte prendre Simon par la main et lui proposer de re-regarder la scène, cette scène qu'il avait regardée avec mépris et dégoût. Eh bien, Jésus remonte le film, il lui remontre la scène, et cette fois, il va la commenter. Un peu pour apprendre à Simon à porter un regard juste, à porter le bon regard sur cette femme et sur ce qui vient de se passer. Donc, il va redécrire la scène, il va la commenter, et puis il prend appui sur un petit peu trois gestes d'hospitalité, trois gestes d'amour, qui sont d'ailleurs un peu en gradation, puisque la première chose dont Jésus parle, c'est le fait de donner de l'eau pour les pieds de son invité. Et ça, c'est un geste d'hospitalité qui est simple, c'est presque un geste d'hygiène. Hein, avant de passer à table, puisqu'on mangeait de manière allongée, on donnait de l'eau pour les pieds, pour se laver les pieds. Le deuxième geste d'hospitalité, c'est de donner un baiser. Ça, déjà, c'est un geste qui montre un accueil qui est chaleureux, qui démontre de l'amour pour son invité. Et puis le troisième geste, qui est encore un peu plus grand, c'est de oindre d'huile. Ça, c'est vraiment une manière d'honorer son invité. Donc trois gestes d'accueil, trois gestes d'hospitalité, un peu en gradation. Et Jésus reprend la scène et montre à Simon qu'en fait, cette femme, elle a fait exactement ces trois choses-là, mais elle les a fait encore en plus grand. Donc si on relit au verset 44. Alors, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes. Donc elle n'a pas simplement donné de l'eau, elle a donné de sa propre eau, elle a donné de ses larmes et elle a arrosé les pieds de ses larmes. Ensuite, verset 45, « Tu ne m'as pas donné de baiser. » Mais elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baiser. Elle n'a pas simplement donné un baiser, elle n'a pas cessé de couvrir les pieds de baiser. Et puis enfin, par rapport à oindre, « Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. » Donc elle a tout fait en plus. Et je trouve ça très délicat la manière dont Jésus prend le temps de redécrire cette scène, qui effectivement peut être un petit peu, peut nous mettre un peu mal à l'aise, cette femme qui arrive, qui finalement ne se retient pas, qui fond en larmes. Eh bien Jésus là, reprend cette scène et puis décrit en quoi elle a témoigné de ses gestes d'amour, ses gestes d'hospitalité, que finalement Simon aurait dû faire lui-même, et puis de montrer qu'elle a encore tout fait avec tellement plus d'entrain, avec tellement plus de passion. Voilà, donc les pensées et la parabole, et à la fin de cette deuxième partie, eh bien, quelles sont les applications pour nous ? Alors, je vous partage deux applications une fois par rapport à Simon. Eh bien, Simon, qui commente en pensée, voilà, nous aussi, on a vite fait de commenter en pensée, d'avoir des pensées méprisantes, des pensées où on regarde de haut, des pensées de jugement. Et je me dis, eh bien, que les enseignements de Jésus, et ce que voilà, ce qu'on lit dans la parole, que ça puisse à la fois transformer nos actions, nos paroles. Voilà, Simon, il n'a pas réagi en action, il n'a pas dit tout haut, mais que ça transforme aussi nos pensées. Et qu'encore plus que ce qu'a fait Simon, eh bien, que nous, même dans nos pensées, eh bien, on puisse chasser ces pensées de mépris, ces pensées de jugement. Et peut-être, voilà, demander aussi à Dieu, demander au Seigneur de parfois nous remontrer certaines scènes et nous apprendre à porter le regard juste et à pas être tout de suite dans le mépris ou l'impression que ça c'est le péché, les pécheurs, et de s'en distinguer. Et voilà, d'apprendre à porter ce regard, le regard que porte Jésus. Donc ça c'est par rapport à Simon, et puis une application par rapport à la femme. Voilà, par rapport à la manière dont elle exprime son amour au Seigneur Jésus. Eh bien, on peut se demander, nous, avec quel entrain est-ce que l'on montre notre amour au Seigneur Jésus? Et finalement, ce texte nous propose un petit peu trois profils. On a Simon qui n'a pas montré les gestes de l'hospitalité, qui n'a pas donné d'eau, qui n'a pas donné de baiser et qui n'a pas non plus oint la tête d'huile. Et puis, on a ce que décrit le Seigneur Jésus, qui serait de donner de l'eau pour les pieds, de donner un baiser et d'oindre la tête d'huile. Des beaux gestes, des marques d'amour, des marques d'hospitalité, des marques d'honneur. Et puis on a ce qu'a fait cette femme, qui a encore fait en plus grand, qui a arrosé les pieds de larmes, qui a couvert de baisers et qui a oint les pieds de parfum. Et je trouve que c'est encourageant pour nous, voilà, d'essayer de ressembler à cette femme et finalement d'aller au-delà des codes de l'hospitalité et au-delà de ce qui est bien de faire pour montrer notre amour. Comme ici, voilà, quand on a un invité, eh bien on lui propose de l'eau pour les pieds, on lui donne un baiser. Mais de le faire avec cette passion, avec cette humilité, cette simplicité, au-delà peut-être des codes, comme cette femme qui vraiment témoigne de son amour pour le Seigneur. Voilà, donc j'en viens à la troisième partie. La troisième partie, le pardon et la paix. Et alors cette femme, elle n'a rien dit hein, de toute cette scène, on n'a pas un mot de sa part. Et ensuite au verset 48, elle entend la phrase « Tes péchés sont pardonnés ». Et ça, ça a dû être magnifique pour elle d'entendre cette phrase. Et je vous propose de nous poser trois questions. D'abord, d'où lui vient le pardon de ses péchés ? Eh bien, le Seigneur Jésus est très clair au verset 50, « Ta foi t'a sauvée ». C'est sa foi qui l'a sauvée. C'est par sa foi qu'elle obtient là le pardon des péchés de la part de Jésus. Mais maintenant, d'où lui vient l'assurance que ce pardon a vraiment eu lieu ? Eh bien, elle peut s'accrocher à la parole de Jésus, puisqu'il lui dit de lui-même « Tes péchés sont pardonnés ». Et toute sa vie, cette femme pourra se souvenir de cette parole qu'elle a entendue de la bouche du Seigneur Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et donc, même si elle venait à douter, est-ce que ce pardon a vraiment eu lieu ? Est-ce que j'en suis sûr ? Eh bien, oui, elle peut s'accrocher à cette parole qui est certaine, qui a été dite par le Seigneur Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, quel est le témoignage visible de ce pardon ? Puisque voilà, c'est une transformation intérieure, ce sont des choses pas physiques, le pardon des péchés. Eh bien, quel est le témoignage un petit peu extérieur ? Qu'est-ce qui nous montre que ça a bien eu lieu ? Eh bien, c'est l'amour qu'elle a témoigné envers le Seigneur Jésus. Et c'est ce que dit Jésus au verset 47. Il dit « Ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Le « car » ici, c'est un « car » de constatation. C'est « Ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est évident, regarde comme elle a beaucoup aimé. Hein, » C'est « Son amour démontre qu'elle a reçu le pardon des péchés. » Et ces trois questions, on peut se les poser pour nous aussi. D'où nous vient le pardon des péchés ? Eh bien, c'est par la foi. On a plein de textes dans la Bible, par exemple dans Éphésiens, où il nous dit « C'est par la foi que vous êtes sauvés ». Alors, c'est vraiment la foi qui nous permet d'obtenir ce pardon des péchés, de recevoir ce pardon des péchés. Et puis ensuite, d'où nous vient l'assurance que ce pardon, il a vraiment lieu. Comment on peut en être sûr? Eh bien, pareil, nous pouvons nous accrocher à la parole de Dieu. Bien sûr que voilà, nous ne l'avons pas forcément entendu audiblement comme cette femme, mais il y a plein de passages dans la Bible où c'est clair que ce pardon, il a lieu. Dans l'épître de Jean, par exemple, il nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Voilà, nous avons cette assurance, nous pouvons nous accrocher à la parole du Christ, à la parole de Dieu, à la Bible, pour avoir cette assurance du pardon des péchés. Et enfin, quelle est la preuve un petit peu visible, quelle est la démonstration visible que ce pardon, cette transformation a eu lieu? Eh bien là aussi, c'est l'amour que nous pouvons avoir pour le Seigneur Jésus, qui révèle en fait cette transformation intérieure. Donc le pardon des péchés. Et puis la dernière chose qu'elle entend au verset 50, « Ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix » ou « va dans la paix ». C'est un long chapitre, ce chapitre 7, avec les 50 versets, avec beaucoup de péripéties. Et c'est beau de voir que Luc, que ce chapitre se termine avec cette phrase « Ta foi t'a sauvé, va dans la paix ». Et pour cette femme, eh bien, c'est la paix avec Dieu, hein, puisque cette dette qu'il y avait entre Dieu et elle, cette dette du péché, eh bien, elle a été quittée, elle a été pardonnée. C'est une paix aussi envers ses regards méprisants des pharisiens et des invités, puisque Jésus les a écartés en fait en portant son attention sur la femme, en prenant le temps de redécrire son geste, d'élever son geste. Et puis, c'est également la paix avec elle-même par rapport à bien, sa vie de péché qui maintenant lui a été pardonnée, dont elle se sait pardonner. Va dans la paix. Et bien sûr que la chose la plus importante, eh bien, c'est le pardon des péchés. Mais je trouve ça très beau de voir comment souvent, Jésus prend le temps aussi d'encourager ces personnes à qui il offre le pardon des péchés, aussi pour leur vie sur terre. Dans le sens où bien sûr que le pardon des péchés, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui mènera à la vie éternelle. Mais cette femme, elle continue de vivre sur terre. Et cette parole encourageante, va dans la paix, eh bien, c'est hyper précieux pour simplement continuer à vivre avec courage, avec espoir, continuer à vivre dans la paix. Alors, de nouveau, une application pour nous, à la fin de cette partie. Eh bien, on a vu que cette femme, c'est ce que explique le Seigneur Jésus, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a de nombreux péchés qui lui ont été pardonnés. Et donc, elle est comme ce débiteur qui avait une grande quantité d'argent, une dette d'une grande quantité d'argent. Alors, la question, c'est si notre amour pour Dieu, pour Jésus, dépend de la dette que nous avions, qui nous a été pardonnée, eh bien, qui est-ce qui fixe la taille de cette dette? Est-ce que moi, je dois 1 mois et demi de salaire ou bien 1 an et demi de salaire? Et ici, on a vu que le salaire, ce n'est pas un salaire d'argent, mais c'est la dette du péché. Eh bien, ma dette du péché, ce n'est pas 1 mois et demi de péché. Ce n'est pas non plus 1 an et demi de péché, mais c'est une vie de péché qui est pardonnée par le Seigneur Jésus. Et donc, l'œuvre du Christ, eh bien, elle couvre tous mes péchés. Et finalement, c'est à moi de réaliser qu'ils sont nombreux. Et en quelque sorte, eh bien, je vais aimer le Seigneur Jésus à la mesure à laquelle je réaliserai aussi les nombreux péchés dont il m'a pardonné. Voilà, alors en conclusion sur cette courte méditation, c'est donc un des passages où on voit les larmes dans les évangiles. C'est le passage que je mettrai en premier parce que ce sont les larmes de la conversion. Voilà, cette pécheresse qui se sent indigne devant le Seigneur Jésus, qui est à ses pieds et remplie d'amour, remplie de reconnaissance et qui reçoit le pardon des péchés. Et puis, je vous ai proposé différentes applications d'apporter notre vase d'albâtre, plein du parfum de notre louange, d'être submergé encore par la personne du Seigneur Jésus, de répandre ce parfum sur ses pieds. Et puis, à l'inverse de Simon, d'être transformé aussi dans nos pensées par les enseignements de Jésus. Que même dans nos pensées, nous puissions être saints et pas avoir ces pensées de mépris. Et puis à la fin, cet encouragement d'oser réaliser les nombreux péchés dont Dieu nous a pardonnés. pour l'aimer plus, d'oser réaliser qu'ils étaient vraiment très nombreux et que voilà, ça puisse nous remplir d'encore plus d'amour envers le Seigneur et envers Dieu. Et en toute dernière pensée, j'aimerais dézoomer un tout petit peu. Donc on a ce passage-là, c'est quelques versets à la fin de Luc 7. Et puis si on s'écarte un peu, on a tout le chapitre 7 de Luc. Et dans ce chapitre 7, eh bien, on nous relate trois miracles. Au début du chapitre 7, c'est la guérison de l'esclave du centurion. Ensuite, un peu plus loin, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et à la fin, c'est la conversion de cette femme. Alors voilà, trois miracles. Et le plus grand des trois, eh bien, c'est le dernier. Pourquoi ? Parce que c'est le plus grand des problèmes. Le péché, ce n'est pas simplement une maladie ou la mort, mais c'est la mort éternelle. Et puis, c'est la plus grande des délivrances, puisque ce n'est pas une guérison ou une résurrection, mais une vie éternelle auprès de Dieu. Et si nous désirons, voilà, encore aujourd'hui, voir Dieu opérer un miracle, et opérer un miracle spectaculaire, eh bien, je nous encourage, voilà, osons prier pour la conversion des personnes qui nous entourent, d'un proche, d'un ami. Parce que, voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus grand, rien de plus spectaculaire que de voir Dieu opérer encore aujourd'hui ce miracle. Et je vous propose de finir en chantant dans les reflets « Me voici ». Je crois que c'est le 222 des reflets.